And now, the elements of the periodic table.
There's hydrogen and helium, then lithium, beryllium, boron, carbon everywhere, nitrogen all through the air, oxygen so you...
Et notre invité connaît bien cette version musicale du tableau périodique des éléments, donc aujourd'hui est la une de la science. Héloïse, pour fêter un événement d'importance.
Oui Mathieu, il m'a semblé important de marquer le coup en chanson, ouais. Parce que le tableau périodique des éléments, en 2019, souffle ses 150 bougies. On l'appelle aussi le tableau de Mendeleïev, du nom de son génial inventeur russe Dmitri Mendeleïev, star mondial de la chimie du 19e siècle. Il a beau être vieux ce tableau, il n'a en fait pas pris une ride. François-Xavier Coudert est avec nous aujourd'hui pour en parler. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur CNRS à l'Institut de Recherche de Chimie Paris. Alors, dites-nous, vous l'avez dans votre bureau, vous, ce tableau, François-Xavier?
Ah oui, je l'ai dans mon bureau parce que c'est une source d'information qu'on utilise au quotidien. C'est les briques à partir desquelles est construite toute la matière, les molécules, les matériaux qu'on utilise. Et donc, il est important, on l'utilise vraiment au quotidien.
Alors rappelez-nous un peu les fondamentaux, on en a besoin. Qu'est-ce que c'est un élément en chimie?
Alors un élément, c'est tous les ensembles d'atomes qui ont le même nombre de protons et du coup le même nombre d'électrons qui sont regroupés ensemble et ça fait un élément comme le carbone, l'azote, le plomb ou l'or parce que leurs propriétés chimiques sont les mêmes. Tous les atomes de carbone vont avoir les mêmes propriétés chimiques.
Alors pourquoi Mendeleïev, il y a 150 ans, il a voulu mettre de l'ordre dans tout ça et faire un tableau? Quelle était la démarche?
Alors la démarche de Mendeleïev, c'est un moment où on connaît une soixantaine d'éléments qui ont déjà été découverts. On sait qu'ils ont des propriétés qui sont différentes les unes des autres et on commence à avoir des mesures précises de leur masse atomique, du poids de chaque élément. Et on se rend compte qu'à la fois, il y a des relations, des éléments qui ont des propriétés proches et qu'il y a des règles mathématiques sur leur masse. Et donc on se dit, quelque part, il y a une organisation qui est sous-jacente à juste cette liste d'éléments. Et Mendeleïev, il fait ça, il trouve une manière de les organiser sous forme de tableau et en mettant en colonne tous les éléments qui ont les mêmes propriétés chimiques ou des propriétés chimiques voisines.
Donc il y en avait une soixantaine, c'est ça, quand il a commencé le tableau?
Oui, hein, à la moitié de ce qu'on a aujourd'hui.
Il avait prévu des cases vides donc pour les remplir.
Exactement, et il se heurte assez rapidement à un problème qui est que dans les répartitions de masse, parfois, le tableau serait plein s'il y avait un élément à cette position, mais on ne le connaît pas. Et donc il va avoir cette idée un peu génial de faire primer son système d'arrangement sur les données expérimentales en se disant mais on les connaît peut-être pas tous. Et effectivement, il prédit les cas silicium qu'on découvrira plus tard être le germanium, etc.
Et il a beaucoup évolué donc depuis 150 ans. On est passé de 60 et quelques à plus de 100 maintenant.
À 118 aujourd'hui. Mmh. Les derniers ont été rajoutés, officialisés, leur découverte en 2002. Et puis l'officialisation après confirmation des mesures.
Ça, hein. Il y en avait 4, hein, je crois,
qui ont été officialisés il y a 2 ans de ça maintenant. Mmh. Et donc on est à 118 éléments aujourd'hui.
Et vous les connaissez tous par cœur?
Non, alors pas tous par cœur. On connaît ceux avec lesquels on travaille le plus souvent. On connaît les familles courantes, les éléments de la vie, carbone, azote, oxygène, etc. Moi je travaille avec des matériaux métalliques, donc je connais une partie des métaux, mais voilà.
Et ces nouveaux éléments, on les trouve dans la nature encore? D'où ils sortent?
Non, alors au-delà du neptunium, les éléments sont plus naturels et on les trouve en fait par fabrication, par nucléosynthèse. On bombarde deux atomes lourds l'un contre l'autre en espérant que par fusion, on arrive à générer un atome super lourd qui soit un nouvel élément pas encore connu.
Et ça, c'est compliqué à faire?
Ça se fait dans des accélérateurs, c'est vraiment compliqué. Il y a quelques équipes au monde qui sont capables de ça aujourd'hui et c'est pour ça que la découverte de nouveaux éléments, on découvre aujourd'hui en moyenne un élément tous les 2 à 3 ans.
Ouais. Mais ça sert à quoi finalement ces nouveaux éléments alors?
Alors en fait, ça sert déjà pour la beauté de la découverte, ça sert pour mieux comprendre et mieux tester les modèles qui prédisent le comportement des atomes super lourds et de leurs noyaux, qui sont encore pas complètement bien établis. Et puis ça nous permet de découvrir en fait de nouveaux isotopes d'éléments déjà connus, mais avec des propriétés de radioactivité différentes, et pour des applications dans le domaine médical notamment, des radiothérapies, etc.
Alors, il y a des nouveaux éléments qui arrivent, est-ce qu'il y en a qui risquent de sortir du tableau? Est-ce qu'il y en a qui sont menacés?
Alors, sortir du tableau, non, une fois qu'un élément est découvert, il est là. Par contre, les approvisionnements de certains éléments peuvent être menacés, soit par des raisons, il s'agit de ressources finies sur la Terre en tout cas, La plupart sont découverts dans des mines et puis on les extrait. Et pour des raisons de ressources limitées, pour des raisons géopolitiques aussi d'approvisionnement, certains peuvent être difficiles à se procurer ou devenir difficiles à se procurer. Le lithium, qu'on utilise énormément pour tout ce qui est application dans les batteries, peut être à terme un problème en termes d'approvisionnement.
Ouais. Et je crois qu'il y a même une année internationale, 2019, c'est ça ? C'est l'année du tableau des éléments périodiques.
2019, l'année internationale du tableau des éléments périodiques pour ses 150 ans. Et puis 2018-2019, l'année scolaire de la chimie à l'école, de l'école à l'université.
Voilà, et c'est bon de le rappeler. On en parlera bien sûr à plusieurs reprises dans La Tête au Carré. Merci François-Xavier Coudert d'être venu aujourd'hui à la Une de la Science.
Merci à vous.
Et Héloïse, à demain.
À demain Mathieu.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, des paysages enfouis depuis plus de 40 000 ans dans l'Arctique canadien sont en train de refaire surface sous l'effet de la fonte des glaciers. C'est sur l'île de Baffin, entre le Groenland et le Canada, que le phénomène a été découvert. Les scientifiques qui publient leurs travaux dans la revue Nature Communication ont daté les échantillons de plantes, de mousses et de lichens de l'île. Et ils ont constaté que ces végétaux étaient probablement enfouis sous la glace depuis au moins 40 000 ans. La région pourrait actuellement traverser son siècle le plus chaud depuis 115 000 ans. Les chercheurs de l'école d'ingénierie et de sciences appliquées de l'université de Pennsylvanie ont réussi à fabriquer de leur côté une feuille de nickel high-tech. Ses pores de taille nanométrique la rendent aussi solide que le titane, mais 4 à 5 fois plus légère. Les scientifiques ont travaillé sur l'arrangement des atomes dans l'espace du métal qui détermine ses propriétés comme son poids ou sa résistance. Et les scientifiques ont appelé leur matériau bois métallique car il présente une résistance mécanique et une stabilité chimique élevée, ainsi qu'une densité proche de celle des matériaux naturels comme le bois. Et puis le CNRS qui vient d'ouvrir sa première antenne à l'étranger, au Canada, à Ottawa très exactement. Le CNRS est associé à l'Université de Lyon dans ce qui est présenté aujourd'hui comme le premier projet du genre à l'étranger.